9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Une heure pour parler d'islam le jeudi sur Beurre FM, 9h-10h avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, bienvenue imam Abdelali, comment allez-vous?
Bonjour Philippe, salam alaykoum, wa barakatou. Je suis ravi de te revoir encore une fois, une énième fois, et puis j'espère encore longtemps, inchallah. Et puis en plus, on a un beau invité ce matin. Là.
Ça y est, prestigieux. Non, ça commence.
Ah, ça commence. Ah, c'est pas possible.
Vous allez le faire rougir, imam Abdelali. C'est Maximilien Bachelard. Bonjour Maximilien.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute. Et vous avez écrit notamment un livre qui s'appelle « L'approche intégrative en psychothérapie ». On parlera, puisque c'est le thème du job éthique du jour, justement, de tous les métiers autour du psy aujourd'hui.
Oui,
mais on démarre cette émission avec une question qui fâche, Imam Abdelali. Est-ce vrai que le prophète a été ensorcelé et qu'on l'a accusé d'être fou allié?
Alors, effectivement, pour être honnête, il a été fait l'objet d'une sorcellerie dans un hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, donc c'est pas n'importe quoi. Pour ceux qui seraient détracteurs d'accuser l'imam, de dire que le prophète ne peut pas, puisque le verset coranique est « Wallahu ya'asimuka minan nas », Dieu te protégera des gens. Hein, il y a d'autres versets qui évoquent effectivement que le prophète sera constamment protégé. Il n'empêche que le prophète lui-même a fait l'objet d'épreuves. Il a été éprouvé. D'abord, ce message lourd de conséquences que son corps a du mal et même son psychique a eu du mal à supporter, qui a effectivement provoqué chez lui parfois des relâchements psychologiques, où est-ce qu'il avait, il perdait un petit peu la mémoire, il avait des tendances parfois un petit peu à avoir des comportements un peu dans lesquels il avait du mal à supporter la révélation, mais aussi la pression de ses détracteurs, de ses ennemis, de ses persécuteurs. Donc tout cela créait chez lui une pression énorme sur son corps et sur son psychique, et cela avait des conséquences que l'on pouvait voir dans son être, dans son état physique, dans son visage, qui changeait de couleur, etc., qui était très affligé par tout ce qu'il avait subi tout au long de son mandat de prophète. Voilà, si on peut appeler ça un mandat. En tout cas, dans le Coran, déjà, Allah Azza wa Jal évoque cette folie. Bien sûr, avec la bouche des détracteurs, puisqu'ils vont constamment le persécuter, l'accuser, essayer de le discréditer, et donc ils vont l'accuser de fou. Mais la plupart du temps, le fou qu'il est, soi-disant, à leurs yeux, est associé à une pratique de génie. Par exemple, la poésie arabe est quelque chose qui est pratiqué par des gens qui ont un minimum de génie. Ils vont dire « sha'irun majnoun », ils vont dire « poète, mais fou ». Comment ça peut être un génie et en même temps un fou? À côté de cela, ils vont dire magicien, hein, sahirun ou majnoun. Magicien, il faut être un génie pour faire de la magie aujourd'hui, pour être capable de tromper la vision des gens. Tu sais, vous savez, le fameux magicien qui joue avec ses mains ou avec des objets est capable de faire croire aux gens qu'il est capable des choses surnaturelles. Eh bien, il faut avoir un minimum de génie pour le faire. Hein. Mais en même temps, fou. Comment ça? Fou et en même temps capable de cela? Ils vont dire érudit, savant, qui a été instruit, qui a des connaissances immenses, puisqu'à chaque fois qu'on l'interroge sur quelque chose, il a la réponse. Il a une réponse à tout. Un érudit, un homme de science, en plus à l'alphabet, qui en plus, associé à cela, Mu'allamun Majnoun. Mu'allamun Majnoun. Et ainsi de suite, voilà. Il y a dans le Coran une multitude de versets qui font allusion à ces accusations de ces détracteurs et qui ont effectivement affligé le prophète, qui l'ont mis à mal. Donc il a été souvent mis à mal. Et Aïcha disait que parfois il perdait la mémoire et quand ses femmes, puisqu'il avait plusieurs femmes, le réclamaient dans la couche, c'est-à-dire qu'il le réclamait, eh bien il leur disait « mais ça y est, c'est bon, j'ai déjà fait ». Alors que il ne l'avait pas fait. Aïcha disait que des épouses venaient le voir, lui dit je voudrais que, est-ce que tu es venu me voir cette nuit, etc. Il a dit oui, mais alors que finalement il n'était pas venu. Donc Aïcha, effectivement, dans ce hadith rapporté par le Bukhari Muslim, rapporte effectivement cette perte de mémoire liée à son état physique et psychologique, voire même psychiatrique de notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wasalam, qui avait fait l'objet à la fois de persécution mais aussi même de sorcellerie. Et je relate pour cela justement la cause de la révélation du verset 51 de sourate de la sourate Al-Qalam. Je crois qu'on reviendra à ça tout à l'heure, peut-être, Philippe, non? Voilà, donc voilà en gros ce que l'on pouvait dire sur la question de cette. Donc pour résumer, le prophète, est-ce qu'il était fou allié? Non. Est-ce qu'il était affligé à tel point que cela se ressentait dans son comportement et dans son état physique et psychologique? La réponse est oui. Hein, il faut se mettre à sa place. Il est dans une ville où tout le monde le déteste, tout le monde le persécute, il le frappe, il l'insulte, et à tout bout de champ, on lui met des détritus devant chez lui, on lui fait du tort, on lui met des ronces devant, comme ça, il se pique. Il est constamment affligé dans son corps et dans son esprit. Donc, cet homme-là, forcément, on va finalement, à la fin, le prendre pour un fou. Mais Dieu, bien sûr, va protéger dans son cœur cette révélation, même si sa raison va être affectée profondément, à tel point que on aura l'impression qu'il aura perdu la raison. Mais ça n'est bien entendu pas le cas.
C'est une épreuve, d'une certaine façon.
C'est une grande épreuve. C'est le premier être surhumain qui a été éprouvé. Et autant que lui, tu meurs. Il n'y a pas un personnage autant éprouvé que le prophète. Il n'a pas été épargné de cette persécution. Parfois, on peut même parler de torture. Ou est-ce qu'il était à chaque fois malmené, on l'insultait, on le frappait. Quand il est parti à Taïf, il était ensanglanté de la tête aux pieds. Il sortait pour aller des fois à la mosquée, on le tabassait, on le caillassait, on lui donnait des coups de bâton, il avait des bleus partout, du sang partout, à tel point que Sayyidina Abu Bakr Siddiq, quand il a vu l'état du prophète, il a dit: Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah? Allez-vous tuer un homme simplement parce qu'il s'est donné le droit à la liberté d'expression et liberté religieuse de croire en un Dieu unique, que son Dieu est Allah? En gros, c'est une question de réprimande, de remontrance à l'égard de ses détracteurs. Il ne s'agit pas d'avoir une réponse, elle n'est pas interrogative, quoi, en gros, la question. C'est ce qu'on appelle su'al inkari, ou tawbihi, de la part de Abu Bakr. Et ces mots de Abu Bakr ont été repris dans le Coran tels qu'ils sont pour justement montrer que les hommes qui étaient autour de lui, heureusement, étaient là aussi pour le protéger et le soutenir dans sa mission.
Alors, on s'intéresse dans cette émission, dans la deuxième partie, à un métier, à une profession, Imam Abdali, au regard de l'islam. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux métiers, alors, les psychologues et les psychanalystes, hein, tous les psys, Imam Abdali.
Oui, effectivement. Donc, la psychologie et la psychanalyse, la psychothérapie aussi, on peut parler beaucoup de choses. Ben ça, c'est, bien sûr, on va laisser la parole à notre spécialiste qui est aujourd'hui notre invité d'honneur pour parler justement de cette science-là. Mais moi, je voudrais faire une analyse religieuse sur la question. Et puis après, bien sûr, on laissera à notre spécialiste la possibilité de nous parler de tout cela en détail. D'abord la question, est-ce que l'on peut être faire l'objet d'une pathologie avec des symptômes et symptomatiques de notre conscience et de notre subconscient, de la même manière que l'on peut avoir une pathologie dans notre corps, c'est-à-dire est-ce que notre esprit aussi peut faire l'objet d'agressions ou de pathologies, de maladies psychologiques ou psychiatriques qui nécessite des soins. La réponse est unanimement reconnue par les savants de l'islam comme oui, comme la question est oui. Donc le prophète dit li kulli da'in dawa. Pour chaque maladie, il y a un médicament, il y a un remède, il y a une thérapie, il y a une solution pour se guérir. Donc pour cela, bien sûr, on va pas emmener une personne atteinte de pathologie psychologique vers un chirurgien qui n'a des compétences que de s'occuper de ce qui est lié au corps humain, c'est-à-dire au fonctionnement du corps humain. Hein, il faut quelqu'un qui est spécialiste en neurologie, en psychologie, en cette science qu'on appelle la psychologie. Et là, bien sûr, comme je dirais tout à l'heure, on aura une meilleure compréhension. Donc, pour cette question-là, la réponse est oui. Maintenant, il y a certaines règles à respecter. D'abord, au niveau du patient. Le patient est censé être consulté, de préférence un homme par un homme, une femme par une femme, pour éviter le khalwa, cette fameuse khalwa qui est l'isolement d'un homme avec une femme que le prophète a réprimé et a associé au fait que si un homme et une femme surtout...
On parle de psychologue, Imam Abdelali.
Oui, on parlait, mais on parle d'isolement, ça... je dis dans la mesure du possible. De la manière qu'on parle, quand on parle de médecine en général, il est préférable d'être accompagné quand il s'agit d'une femme pour éviter, aujourd'hui, il y a des abus même chez ces praticiens. Donc, c'était une petite parenthèse qu'il fallait évoquer, d'un point de vue, relation homme-femme.
Bien embêté. Hein? Ouais. Bien embêté avec la relation.
Vous avez vu ça, Maximilien? Pourtant, j'ai essayé, j'ai gratté, mais...
Non, c'est ingrattable.
Ah, mais surtout Maximilien. Surtout Maximilien, ça craint avec Maximilien.
Ah bon, ben merci.
Ouais, là, parce que là... Mais ça peut être en même temps une thérapie, hein.
Et on n'abordera pas un homme avec un homme. Certainement pas ce matin.
Qui s'allonge sur un divan et qui commence à se faire des rêves érotiques,
c'est déjà pas mal.
Voilà, ça, justement, j'ouvre la parenthèse. La transition par rapport à ça, c'est la position des savants concernant les idées freudiennes, qui consistent à dire que pour pouvoir se guérir d'une pathologie, d'une crise psychologique, il faut s'émanciper d'un point de vue au niveau de ses passions, se laisser aller au libertinage, à tout ce qui est proscrit, tout ce qui est interdit, parce que c'est cette interdiction que l'on s'impose qui provoque chez certaines, je dis bien, théories. Je dis bien certaines théories freudiennes, qui provoqueraient cette
heureusement
ces
pathologies. Je suis pas psychanalyste parce que je pense que ça aurait été compliqué à défendre. Mais en tout cas, bon, c'est une vision des choses.
Oui, en tout cas, elle existe chez certains.
En tout cas, pas dans les textes religieux psychanalytiques. Mais après, peut-être que c'est l'image que ça peut véhiculer, et puis peut-être qu'on peut se le représenter comme ça. Mais...
Qu'est-ce que vous appelez les textes religieux psychanalytiques?
C'est-à-dire que les textes que les psychanalystes peuvent suivre assidûment recommandent pas. En tout cas, moi je ne suis pas psychanalyste, mais on ne recommande pas un accès au libertinage, à l'émancipation, et surtout à faire fi du droit, du cadre, de la morale et de l'éthique. En tout cas, ce n'est pas encouragé. Mais on peut avoir cette représentation que finalement, dès qu'on sort du psychanalyste, on se défait de tout ce qui fait le cadre de la société. Bon, en tout cas, bon, voilà, moi je suis pas psychanalyste.
Moi, dans mes recherches, j'ai certaines références psychiatriques qui font allusion justement à ce sort de cette catégorie de remèdes psychiatriques pour pouvoir se débarrasser de pathologies.
C'est peut-être un peu daté, c'est-à-dire que bon, voilà, je sais pas jusqu'où on peut parler aujourd'hui de questions intimes. Mais il faut savoir, est-ce qu'on peut parler de questions intimes?
On peut, bien sûr.
On peut.
Pourquoi je vous dis ça? Si ce sont des questions intimes médicales, oui, bien sûr.
Voilà. Les traitements étaient portés notamment sur l'émancipation sexuelle des femmes à la fin du 19e siècle. C'est comme ça qu'on a inventé la question du Godmichet, qui était la médecine a développé ça en expliquant que certaines femmes étaient en prise avec une difficulté à pouvoir s'émanciper, et donc on utilisait la stimulation sexuelle pour les amener à s'émanciper.
19e siècle.
Voilà. Bon. 19e siècle. Les choses ont évolué depuis, et c'est vrai que la question de la psychanalyse, selon moi, c'est de pouvoir découvrir une voie d'émancipation, mais avec évidemment certaines limites, c'est-à-dire ne pas être forcément dans une extrême frustration, mais de pouvoir aussi trouver sa voie dans cette société.
Mais moi, écoutez, je suis pas forcément, moi, à 100% contre cette idée du fait qu'il peut y avoir des blocages psychologiques liés à une frustration.
L'idée, c'est de trouver un entre-deux, parce qu'il faut que les gens puissent aussi, à un moment donné, vivre dans une société, s'émanciper, mais pas au risque non plus de ne plus avoir de limites, parce que pour moi, ça s'appellerait plus la psychanalyse.
Le souci, c'est que dans le christianisme, le plaisir sexuel le plaisir charnel a toujours été mal vu, a toujours été considéré comme étant satanique et démoniaque. Se faire plaisir, atteindre un orgasme, un plaisir sexuel, était compris chez les chrétiens comme quelque chose de motivé par le diable. Alors que chez nous, en islam, non, c'est pas du tout vrai. Simplement, il faut que ça soit cadré. Et le cadre, c'est le mariage. Si à partir du moment où tu es avec ta femme, fais ce que tu veux. Fais tout ce qui peut te permettre de t'émanciper sexuellement et d'avoir un soulagement et d'être totalement assouvi de tes besoins, même les plus fantasmagoriques.
Ah bon, regardez pas moi. Laissez-moi. Il m'a même bien dit.
Donc si effectivement ça peut être une thérapie que de dire à un homme, il faudrait que vous ayez des rapports plus émancipés avec votre femme, faites-le. Avec la femme des autres.
Ce que je trouve, mais ça c'est autre chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi la représentation qu'on peut se faire quand on est dans la sphère religieuse de ce que font les psys. C'était un peu aussi ce que je voulais amener aujourd'hui, c'est-à-dire que moi j'ai pu remarquer que chez les croyants, de toute religion que ce soit, soit on a une ouverture vers le psy, soit il y a une crainte qui est liée aussi à des représentations qui sont pas toujours les bonnes non plus. Et donc moi, pour ma part, j'ai pu observer que voilà, certaines personnes pouvaient se dire voilà, le psy est dans l'église ou le psy est dans la mosquée, et donc finalement il est comment dire, un petit peu celui qui pourrait tenter le diable justement, alors que c'est pas forcément l'objectif. Et donc c'est aussi une des questions que je me pose aujourd'hui, et puis on en parlera peut-être par la suite. Mais finalement, est-ce que les deux sont incompatibles? Est-ce que psychothérapie et religion sont incompatibles? Mais aussi dans l'esprit des gens, c'est-à-dire que
la réponse est non. Le texte, je te dis tout de suite, c'est non.
Oui, mais la question peut dire une chose,
c'est dans la tête des gens.
Comment les gens se le représentent? Comment quand je
alors
prends
ça, c'est
en
plutôt
Dieu,
dans la culture.
Voilà.
Dans la culture, il y a effectivement l'idée de dire, moi, allez voir un psy, moi, je suis pas fou. Ouais. Alors que ça n'a rien à voir avec la folie. C'est lié à des pathologies qui n'ont rien à voir avec la folie. Voilà.
Bien, à votre spiritualité, on est ensemble jusqu'à 10h et donc on continuera ce débat dans un instant.
9h, 10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h, 10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Une heure pour parler d'islam le jeudi sur Beurre FM, 9h, 10h avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, bienvenue imam Abdelali, comment allez-vous?
Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis ravi de te revoir encore une fois, une énième fois, et puis j'espère encore longtemps, inchallah. Et puis en plus on a un beau invité ce matin là.
Ça y est,
prestigieux.
Non, ça commence.
Ah, ça commence. Ah, c'est pas possible.
Vous allez le faire rougir imam Abdelali. C'est Maximilien Bachelard. Bonjour Maximilien.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute, et vous avez écrit notamment un livre qui s'appelle L'approche intégrative en psychothérapie. On parlera, puisque c'est le thème du job éthique du jour, justement de tous les métiers autour du psy aujourd'hui.
Oui, exactement.
Mais on démarre cette émission avec une question qui fâche, Imam Abdelali. Est-ce vrai que le prophète a été ensorcelé et qu'on l'a accusé d'être fou allié?
Alors effectivement, pour être honnête, il a été fait l'objet d'une sorcellerie dans un hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, donc c'est pas n'importe quoi. Pour ceux qui seraient détracteurs d'accuser l'imam de dire que le prophète ne peut pas, puisque le verset coranique est Wallahu ya'asimuka minan nas, Dieu te protégera des gens. Il y a d'autres versets qui évoquent effectivement que le prophète sera constamment protégé. Il n'empêche que le prophète lui-même a fait l'objet d'épreuves. Il a été prouvé. D'abord, ce message lourd de conséquences que son corps a du mal, et même son psychique a eu du mal à supporter, qui a effectivement provoqué chez lui parfois des relâchements psychologiques, où est-ce qu'il avait, il perdait un petit peu la mémoire, il avait des tendances parfois un petit peu à avoir des comportements un peu dans lequel il avait du mal à supporter la révélation, mais aussi la pression de ses détracteurs, de ses ennemis, de ses persécuteurs. Donc tout cela crée chez lui une pression énorme sur son corps et sur son psychique, et cela avait des conséquences que l'on pouvait voir dans son être, dans son état physique, dans son visage, qui changeait de couleur, etc., qui était très affligé par tout ce qu'il avait subi tout au long de son mandat de prophète. Voilà, si on peut appeler ça un mandat. En tout cas, dans le Coran, déjà, Allah Azza wa Jal évoque cette folie. Bien sûr, avec la bouche des détracteurs, puisqu'ils vont constamment le persécuter, l'accuser, essayer de le discréditer, et donc ils vont l'accuser de fou. Mais la plupart du temps, le fou qu'il est, soi-disant, à leurs yeux, est associé à une pratique de génie. Par exemple, la poésie arabe est quelque chose qui est pratiqué par des gens qui ont un minimum de génie. Ils vont dire « Sha'irun majnoun », ils vont dire « poète, mais fou ». Comment ça, poète? Un génie et en même temps un fou? À côté de cela, ils vont dire magicien, hein, sahirun ou majnoun. Magicien, il faut être un génie pour faire de la magie aujourd'hui, pour être capable de tromper la vision des gens. Tu sais, vous savez, le fameux magicien qui joue avec ses mains ou avec des objets est capable de faire croire aux gens qu'il est capable des choses surnaturelles. Eh bien, il faut avoir un minimum de génie pour le faire. Hein. Mais en même temps, fou. comment ça, fou et en même temps capable de cela. Ils vont dire érudit, savant, qui a été instruit, qui a des connaissances immenses, puisqu'à chaque fois qu'on l'interroge sur quelque chose, il a la réponse. Il a une réponse à tout. Un érudit, un homme de science, en plus à l'alphabète, qui en plus associé à cela est, on appellera Mu'allamun Majnoun, hein, Mu'allamun Majnoun. Et ainsi de suite, voilà. Il y a dans le Coran une multitude de versets qui font allusion à ces accusations de ces détracteurs et qui ont effectivement affligé le prophète, qui l'ont mis à mal. Donc il a été souvent mis à mal. Et Aïcha disait que parfois il perdait la mémoire et quand ces femmes, puisqu'il avait plusieurs femmes, le réclamaient dans la couche, c'est-à-dire qu'il le réclamait, eh bien il leur disait « mais ça y est, c'est bon, j'ai déjà fait ». Alors qu'il ne l'avait pas fait. Aïcha disait que des épouses venaient le voir, lui disaient « je voudrais que, est-ce que tu es venu me voir cette nuit, etc. » Il a dit « oui, oui, mais alors que finalement il n'était pas venu ». Donc Aïcha, effectivement, dans ce hadith rapporté par le Bukhari Muslim, rapporte effectivement cette perte de mémoire liée à son état physique et psychologique, voire même psychiatrique de notre prophète bien-aimé Mohammed alayhi salatu wasalam, qui avait fait l'objet à la fois de persécutions mais aussi même de sorcellerie. Et je relate pour cela justement la cause de la révélation du verset 51 de sourate de la sourate Al-Qalam. Je crois qu'on reviendra à ça tout à l'heure peut-être, Philippe, non? Voilà, donc voilà en gros ce que l'on pouvait dire sur la question de cette. Donc pour résumer, le prophète, est-ce qu'il était fou allié? Non. Est-ce qu'il était affligé à tel point que cela se ressentait dans son comportement et dans son état physique et psychologique? La réponse est oui. Hein, il faut se mettre à sa place. Il est dans une ville où tout le monde le déteste, tout le monde le persécute, il le frappe, il l'insulte, et à tout bout de champ, on lui met des détritus devant chez lui, on lui fait du tort, on lui met des ronces devant comme ça, il se pique. Il est constamment affligé dans son corps et dans son esprit. Donc cet homme-là, forcément, on va finalement à la fin le prendre pour un fou. Mais Dieu, bien sûr, va protéger dans son cœur cette révélation, même si sa raison va être affectée profondément, à tel point que on aura l'impression qu'il aura perdu la raison. Mais ça n'est bien entendu pas le cas.
C'est une épreuve, d'une certaine façon.
C'est une grande épreuve. C'est le premier être surhumain qui a été éprouvé. Autant que lui, tu meurs. Il n'y a pas un personnage autant éprouvé que le prophète. Il n'a pas été épargné de cette persécution. Parfois, on peut même parler de torture. Ou est-ce qu'il était à chaque fois malmené, on l'insultait, on le frappait. Quand il est parti à Taïf, il était ensanglanté de la tête aux pieds. Il sortait pour aller des fois à la mosquée, on le tabassait, on le caillassait, on lui donnait des coups de bâton, il avait des bleus partout, du sang partout, à tel point que Sayyidina Abu Bakr Siddiq, quand il a vu l'état du prophète, il a dit « Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah ?» Allez-vous tuer un homme simplement parce qu'il s'est donné le droit à la liberté d'expression et liberté religieuse de croire en un Dieu unique, que son Dieu est Allah. En gros, c'est une question de réprimande, de remontrance à l'égard de ses détracteurs. Il ne s'agit pas d'avoir une réponse. Elle n'est pas interrogative, quoi, en gros, la question. C'est ce qu'on appelle « Su'al inkari » ou « Tawbihi » de la part de Abu Bakr. C'est-à-dire, et ces mots de Abu Bakr ont été repris dans le Coran tels qu'ils sont pour justement montrer que les hommes qui étaient autour de lui, heureusement, étaient là aussi pour le protéger et le soutenir dans sa mission.
Alors, on s'intéresse dans cette émission, dans la deuxième partie, à un métier, à une profession, Imam Abdali, au regard de l'islam. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au métier, alors, les psychologues et les psychanalystes, hein, tous les psys, Imam Abdelali.
Oui, effectivement, donc la psychologie et la psychanalyse, la psychothérapie aussi, on peut parler beaucoup de choses. Ben ça, c'est bien sûr, on va laisser la parole à notre spécialiste qui est aujourd'hui notre invité d'honneur pour parler justement de cette science-là. Mais moi, je voudrais faire une analyse religieuse sur la question. Et puis après, bien sûr, on laissera à notre spécialiste la possibilité de nous parler de tout cela en détail. D'abord la question, est-ce que l'on peut être faire l'objet d'une pathologie avec des symptômes et symptomatiques de notre conscience et de notre subconscient, de la même manière que l'on peut avoir une pathologie dans notre corps, c'est-à-dire est-ce que notre esprit aussi peut faire l'objet d'agressions ou de pathologies, de maladies, hein, psychologiques ou psychiatriques qui nécessitent des soins. La réponse est unanimement reconnue par les savants de l'islam comme oui, comme la question est oui. Donc le prophète dit « likulli da'in dawa ». Pour chaque maladie, il y a un médicament, il y a un remède, il y a une thérapie, il y a une solution pour se guérir. Donc, pour cela, bien sûr, on ne va pas emmener une personne atteinte de pathologie psychologique vers un chirurgien qui lui qui n'a des compétences que de s'occuper de ce qui est lié au corps humain, c'est-à-dire au fonctionnement du corps humain. Hein, il faut quelqu'un qui est spécialiste en neurologie, en psychologie, en cette science qu'on appelle la psychologie. Et là, bien sûr, comme je dirais tout à l'heure, on aura une meilleure compréhension. Donc, pour cette question-là, la réponse est oui. Maintenant, il y a certaines règles à respecter. D'abord, au niveau du patient. Le patient est censé être consulté de préférence un homme par un homme, une femme par une femme, pour éviter le khalwa, cette fameuse khalwa qui est l'isolement d'un homme avec une femme que le prophète a réprimé et a donc associé au fait que si un homme et une femme surtout
on parle de psychologue,
on parle d'isolement, ça. Je dis dans la mesure du possible, de la manière qu'on parle quand on parle de médecine en général, il est préférable d'être accompagné quand il s'agit d'une femme pour éviter. Aujourd'hui, il y a des abus même chez ces praticiens. Donc, c'était une petite parenthèse qu'il fallait évoquer d'un point de vue relation homme-femme.
Bien embêté, moi.
Hein?
Bien embêté.
Vous avez vu ça, Maximilien? Pourtant, j'ai essayé, j'ai gratté, mais...
Non, c'est ingrattable.
Ouais. Mais surtout Maximilien, ça craint avec Maximilien.
Ah bon, bah merci.
Ouais, là, parce que là, mais ça peut être en même temps une thérapie. Hein,
on n'abordera pas un homme avec un homme, certainement pas ce matin.
Une femme qui s'allonge sur un divan et qui commence à se faire des
bon, ça va, j'allonge personne, donc c'est déjà pas mal.
Voilà, ça justement, j'ouvre la parenthèse. La transition par rapport à ça, c'est la position des savants concernant les idées freudiennes, qui consistent à dire que pour pouvoir se guérir d'une pathologie, d'une crise psychologique, il faut s'émanciper d'un point de vue au niveau de ses passions, se laisser aller au libertinage, à tout ce qui est proscrit, tout ce qui est interdit, parce que c'est cette interdiction que l'on s'impose qui provoque chez certaines, je dis bien, théories. J'ai dit bien certaines théories freudiennes qui provoqueraient cette
heureusement que je suis pas psychanalyste parce que je pense que ça aurait été compliqué à défendre. Mais en tout cas, bon, c'est une vision des choses.
Oui, en tout cas, elle existe chez certains.
En tout cas, pas dans les textes religieux psychanalytiques. Mais après, peut-être que c'est l'image que ça peut véhiculer, et puis peut-être qu'on peut se le représenter comme ça. Mais...
Qu'est-ce que vous appelez les textes religieux psychanalytiques?
C'est-à-dire que les textes que les psychanalystes peuvent suivre assidûment recommandent pas. En tout cas, moi je ne suis pas psychanalyste, mais on ne recommande pas un accès au libertinage, à l'émancipation, et surtout à faire fi du droit, du cadre, de la morale et de l'éthique. En tout cas, c'est pas encouragé. Mais on peut avoir cette représentation que finalement, dès qu'on sort du psychanalyste, on se défait de tout ce qui fait le cadre de la société. Bon, en tout cas, bon, voilà, moi je suis pas psychanalyste.
Moi, dans mes recherches, j'ai certaines références psychiatriques qui font allusion justement à ce sort de cette catégorie de remèdes psychiatriques pour pouvoir se débarrasser de pathologies.
C'est peut-être un peu daté, c'est-à-dire que jusqu'où on peut parler aujourd'hui de questions intimes. Mais il faut savoir, est-ce qu'on peut parler de questions intimes?
On peut, bien sûr.
On peut.
Pourquoi je vous dis ça? Si ce sont des questions intimes médicales, oui, bien sûr.
Voilà. Les traitements étaient portés notamment sur l'émancipation sexuelle des femmes à la fin du 19e siècle. C'est comme ça qu'on a inventé la question du Godmichet, qui était la médecine a développé ça en expliquant que certaines femmes étaient en prise avec une difficulté à pouvoir s'émanciper, et donc on utilisait la stimulation sexuelle pour les amener à s'émanciper.
19e siècle.
Voilà. Bon. 19e siècle. Les choses ont évolué depuis, et c'est vrai que la question de la psychanalyse, selon moi, c'est de pouvoir découvrir une voie d'émancipation, mais avec évidemment certaines limites, c'est-à-dire ne pas être forcément dans une extrême frustration, mais de pouvoir aussi trouver sa voie dans cette société.
Mais moi, écoutez, je suis pas forcément, moi, à 100% contre cette idée.
Oui, non, mais...
du fait qu'il peut y avoir des blocages psychologiques liés à une frustration.
L'idée, c'est de trouver un entre-deux, parce qu'il faut que les gens puissent aussi, à un moment donné, vivre dans une société, s'émanciper, mais pas au risque non plus de ne plus avoir de limites, parce que pour moi, ça s'appellerait plus de la psychanalyse.
Le souci, c'est que dans le christianisme, le plaisir sexuel a toujours été mal vu, a toujours été considéré comme étant satanique et démoniaque. Se faire plaisir, atteindre un orgasme, un plaisir sexuel, était compris chez les chrétiens comme quelque chose de motivé par le diable. Alors que chez nous, en islam, non, c'est pas du tout vrai. Mmh. Simplement, il faut que ça soit cadré. Mmh. Et le cadre, c'est le mariage. Si à partir du moment où t'es avec ta femme, fais ce que tu veux. Fais tout ce qui peut te permettre de t'émanciper sexuellement et d'avoir un soulagement et d'être totalement assouvi de tes besoins, même les plus fantasmagoriques.
Ah ben regardez pas moi. Laissez-moi. Il m'a même dit.
Donc si effectivement ça peut être une thérapie. Que de dire à un homme, écoutez, il faudrait que vous ayez des rapports plus émancipés avec votre femme, faites-le. Avec votre femme, pas avec la femme des autres.
Mais ça c'est autre chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi la représentation qu'on peut se faire quand on est dans la sphère religieuse de ce que font les psys. C'était un peu aussi ce que je voulais amener aujourd'hui, c'est-à-dire que moi j'ai pu remarquer que chez les croyants, de toute religion que ce soit, soit on a une ouverture vers le psy, soit il y a une crainte qui est liée aussi à des représentations qui ne sont pas toujours les bonnes non plus. Et donc moi, pour ma part, j'ai pu observer que certaines personnes pouvaient se dire, le psy est dans l'église ou le psy est dans la mosquée, et donc finalement, il est un petit peu celui qui pourrait tenter le diable, justement, alors que c'est pas forcément l'objectif. Et donc c'est aussi une des questions que je me pose aujourd'hui, et puis on en parlera peut-être par la suite, mais finalement, est-ce que les deux sont incompatibles? Est-ce que psychothérapie et religion sont incompatibles? Mais aussi dans l'esprit des gens, c'est-à-dire que...
La réponse est non. Le texte... Je dis tout de suite, c'est non.
Oui, mais la question, c'est comment les gens se le représentent? Ouais. Comment, quand je
Alors
crois
ça, c'est
en
plutôt
Dieu,
dans la culture. Voilà. Dans la culture, il y a effectivement l'idée de dire, moi, allez voir un psy, moi, je suis pas fou. Ouais. Alors que ça n'a rien à voir avec la folie. C'est lié à des pathologies qui n'ont rien à voir avec la folie. Voilà.
Bien, à votre spiritualité, on est ensemble jusqu'à 10h et donc on continuera ce débat dans un instant.
9h, 10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h, 10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, avec l'imam Abdelali Mamoun, qui est en grande discussion avec notre invité, Maximilien Bachelard, docteur en psychologie et psychothérapeute. Imam Abdelali, on vous nous racontez chaque semaine l'histoire d'une sourate et d'un verset. Donc aujourd'hui, c'est la sourate 68 et le verset 51 que vous nous répétez, s'il vous plaît.
Donc, effectivement, Dieu dans le Coran, apparemment, les gens, j'ai constaté qu'ils appréciaient que je psalmodie au moins un verset par émission. Lors du développement de l'histoire du verset Sabab Nuzul Ayah, يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. Donc verset 51 de la sourate 68, sourate Al-Qalam, qui se traduit par la plume, où Dieu dit « Peu s'en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leur regard. Quand ils entendent le Coran, ils disent « Il est certes fou ». Alors, apparemment, effectivement, il y aurait une cause de révélation de ce verset-là, puisque ce sont des Mécois qui avaient l'habitude d'envoyer des personnes qu'ils considéraient comme étant source de malheur, et leur présence, leur regard était considéré comme source de destruction et d'anéantissement des personnes qu'ils regardaient. et donc il provoquait des problèmes, des malheurs aux personnes vers lesquelles ils accentuaient leur mauvais œil, leur mauvais regard. Et il est dit justement dans cette tradition musulmane et notamment dans les hadiths du prophète sallam où il est dit al-aynu haqq, le mauvais œil est vérité. Et dans un autre hadith, il est dit que s'il y avait quelque chose qui pouvait précéder le destin, ça serait l'œil, le regard, mauvais ou bon, bien sûr, mais l'œil, al-ayn, al-aynu, qui veut dire en français l'œil, c'est l'œil, donc ou le regard, bien sûr. Et donc il est dit que ce verset-là a été révélé alors que le prophète, alayhi salam, comme on évoquait depuis tout à l'heure, qui faisait l'objet de persécutions à la Mecque avant l'immigration, eh bien, une de ces manières-là, c'est que les Quraysh ont utilisé les Banu Asad. C'est une tribu qui était réputée par ce mauvais œil, dans lequel, à chaque fois, quand ils regardaient d'un mauvais œil, avec un mauvais regard, quelqu'un qui avait un bien, par exemple un beau chameau, un beau magasin, une belle maison, une belle femme, eh bien, dès que ces personnages-là, on les utilisait comme de manière superstition, on les apportait pour pouvoir détruire et anéantir ce que avait cette personne qui était comblée de cet objet ou de cette personne ou de ce bien-là qui était apprécié par les gens. Et donc, qu'ils étaient capables, par leur regard, de pouvoir détruire les personnes. Et effectivement, il est raconté que le prophète a fait l'objet de ce regard, de ce mauvais regard par ces gens-là, les Banu Asad, et que il aurait commencé à vaciller, à commencer à avoir un comportement un peu, on va dire, irrationnel, il aurait commencé à, on va dire, à avoir une démarche un peu vacillante, et que ça aurait été fait l'objet de ce regard-là. Dieu relate cette histoire-là, cette volonté de ces gens-là de nuire au prophète sallam, et il dit « Wa in yakadu alladhina kafaru ». Et « yakad », ça veut dire « presque », ils ont réussi. Ils ont presque réussi. Hein, je reprends le « peu s'en faut ». Peu s'en faut, c'est-à-dire ils ont presque réussi à transmettre par leur regard quelque chose qui permettrait ou dans lequel ils auraient la volonté de t'anéantir ou de tuer ou de t'empêcher de continuer à réaliser ta mission dans cette vie. Et donc Dieu relate cela. Et il dit aux gens, en gros, faites attention au mauvais œil. Hein, quand vous et la solution, puisqu'il y a un remède, Philippe, une solution à cette question du mauvais œil, eh bien, c'est tout simplement d'éviter les onomatopées, les waouh, les trucs comme ça, ou magnifiques, ou les superlatifs, etc. Mais les remplacer par des tabarakallah, par des machallah, par des phrases où l'on formule le nom de Dieu. À partir du moment où vous formulez le nom de Dieu, quand vous voyez quelque chose de bien, eh bien, la personne est préservée de votre mauvais œil. Donc il est impératif d'éduquer nos enfants, de nous éduquer nous-mêmes, qu'à chaque fois qu'on voit du bien dans les personnes qui sont autour de nous, de citer le nom de Dieu en disant Tabarakallah. Et c'est arrivé à l'époque du prophète qu'un homme qui avait vu un autre homme dénudé, qui était très très beau, avec une peau très blanche, il était en train de se doucher, et l'homme a dit il a fait une onomatopée, كأنها جلد عذراء, on aurait dit une peau de vierge, d'une belle femme, jeune femme vierge, كأنها جلد عذراء, on dirait la peau. Cet homme-là qui se douchait est tombé net sur place. Il est tombé net sur place. Ça, c'est un hadith authentique de l'histoire de la vie du prophète à Médine. Cet homme-là qui est tombé net par terre, donc KO, évanoui, a été transporté devant le prophète et il a dit, il a subi le mauvais œil. Interrogez les gens autour de vous, savoir est-ce qu'il y a un homme parmi eux qui a eu un mauvais regard sur cet homme-là. Et effectivement, un homme s'est dénoncé, a dit oui, à Rasoulallah, moi tout à l'heure quand je le regardais en train de prendre sa douche, j'ai été étonné par la beauté de sa peau, et j'ai dit qu'Anna Gilles de Hadra, et j'ai eu un regard un peu envieux. Un hasoud. Et là, le prophète sallam dit, fais tes ablutions. Il a fait ses ablutions et il a versé l'eau des ablutions de cet homme-là sur le corps de cet homme, et il s'est réveillé et il s'est rétabli et il a guéri de ce coup de mauvais œil. Donc le mauvais œil, dans la tradition musulmane, haqq est vérité, et il dit, le prophète, que s'il y avait quelque chose qui pouvait surpasser le destin, prendre le dessus sur le destin, eh bien, c'est le mauvais œil. Voilà. En gros, ce qui est autour de cette histoire concernant le mauvais œil et le fait que le prophète aurait été victime de ce mauvais œil.
Bien, on parlait avec Maximilien Bachelard ce matin de la compatibilité entre Dieu et la psychothérapie. Imam Abdelali, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qu'on ne peut pas dire à un praticien, à un psy ?
Alors, en principe, on ne doit pas évoquer sa vie intime, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proscrit le fait que l'on raconte sa vie intime à une autrui, et il dit que autant avoir des rapports dans la rue, dans un espace public, si vous le faites en privé et qu'après vous allez raconter vos prouesses sexuelles dans la rue, autant les faire directement dans la rue, c'est-à-dire aller les faire dans un espace public.
Donc, intime, c'est sexuel. Ça, c'est...
Comment ?
Intime, c'est sexuel, c'est ça.
Oui, relation intime, relation, bon, c'est pas.
Parce que parler de ce qu'il y a au fond de soi, c'est intime aussi. Dans
là, moi, je parlais de relation intime,
relation sexuelle, c'est un mot pour rester poli,
quoi.
Oui, non, mais il y a
pour éviter d'utiliser des termes.
Oui, mais pour moi, ça permettait de définir. Bon, en tout cas.
Par contre, raconter l'état dans lequel se trouve le couple qui a des problèmes de relations. Et le docteur pose les interroges et leur dit: quels sont vos rapports au niveau intime? Est-ce que vous faites chambre à part? Est-ce que ça va bien entre vous?
Ce qu'il y a autour, quoi, du contexte.
Effectivement, de ce qui est autour. Pas quant à la manière qu'il a fait pour copuler, etc.
Pour
réaliser le coït et compagnie.
Comment ça se passerait? Et donc, c'est-à-dire que, bon, moi, je pousse un peu le sujet, mais alors, donc, finalement, on n'aurait pas le droit d'aller voir un sexologue si on a des difficultés à cet endroit-là, puisqu'il faut bien raconter aussi les douleurs ou le concret aussi.
La réponse est si, on peut. On peut et même raconter ce qu'on a. D'accord. À partir du moment où ça relève de la médecine, d'accord, et de la thérapie et, okay, des, et des remèdes médicaux, tout est autorisé.
D'accord.
Une femme qui va voir un homme gynécologue et qui écarte ses jambes parce que le bonhomme, il voit tout, si voilà, déjà ça, c'est
parlons
autorisé.
Parlons concrètement.
Mais un gynécologue, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde quoi?
Il va pas regarder
son visage s'il est épanoui ou pas.
Ah ben je sais pas.
En général, un gynécologue, et il allonge la femme et il fait ce qu'il faut pour faire un frottis, pour faire voilà, etc. On est bien d'accord.
Il y a plus d'oreilles chastes, là c'est terminé.
Si déjà voir les parties intimes d'une femme ou d'un homme, hein, ça pourrait être aussi la verge, etc., d'un homme, etc.
Oh là là.
Si
on
ça...
a dit tout le champ lexique, alors là.
Non, attendez, il y en a d'autres.
On est tout rouge. En tout cas,
non, mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là.
J'assume. Là, j'ai rougi.
Mais est-ce que tu me poses la question, Philippe?
Non, mais au moins, comme ça, on sait.
J'ai dit, est-ce qu'on peut tout dire? J'ai pas dit.
Oui, mais.
Non, on a compris.
J'ai dit que si on peut faire des choses qui sont. Pourquoi ne pas les dire? Si déjà ça. Pour se soigner, on a le droit de le faire. Il est forcément autorisé pour se soigner de le dire.
Donc si
on fait ça.
Si je résume bien, si ça a un intérêt qu'on se voit pour ça et que ça pose problème, nous sommes autorisés à en parler.
Bien sûr.
Si finalement c'est un sujet annexe, ce serait finalement
si c'est
du voyeurisme,
de la curiosité ou du voyeurisme.
Donc on ne peut pas.
Ou de l'exhibitionnisme, on n'est pas là pour ça.
Exact.
Voilà,
tout à fait.
Très bien. Bon, c'est très clair.
Oh ben moi je suis bête, hein, donc moi j'ai besoin de choses concrètes. Là, c'est
concret. Besoin de reformuler.
Voilà, moi j'ai besoin de reformuler.
Alors bien, vous reviendrez, Maximilien, pour poursuivre cette conversation. Imam Abdelali, je rappelle à tous ceux qui n'ont pas pu poser vos questions, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on avait beaucoup de choses à dire qui peuvent le faire et vous appeler directement.
Moi je voudrais juste résumer quelque chose, c'est que si vous avez un problème, une pathologie psychologique ou psychiatrique, allez consulter, ça n'est pas haram, c'est au contraire autorisé, voire même conseillé, recommandé, parce que le psychique, le subconscient fait aussi l'objet de pathologies et d'agressions, voire même de maladies, et ça s'appelle pas de la folie, ça s'appelle des pathologies psychiatriques ou psychologiques, il faut aller soigner. Vous êtes triste, vous êtes angoissé, vous avez une dépression, vous êtes fait atteindre de dépression nerveuse, etc. Vous avez besoin de consulter pour résoudre, trouver un remède, voire même, pourquoi pas, médicamenteux, utiliser par exemple des antidépresseurs, etc., quand c'est nécessaire. Tout cela est autorisé à partir du moment où c'est raisonnable et que ça rentre dans la prescription médicale. Voilà pour résumer la question.
Et l'imam n'y peut rien. Hein, c'est pas,
l'imam,
ça
voilà,
ne relève pas de la compétence de l'imam.
L'imam va simplement vous dire d'aller le voir, d'aller voir le psy. Mais il ne va pas prendre la place du psy. Donc arrêtez de m'appeler pour me dire j'ai besoin de vous parler parce que j'ai des problèmes. Je suis pas un psy. Allez voir des psys. Et c'est même remboursé par la sécu,
puisque
c'est reconnu par l'administration comme étant une maladie comme une autre, d'aller voir un psy. Donc, allez consulter un médecin. L'imam, il est là juste pour répondre si oui ou non c'est halal ou pas, etc. Voilà, je m'arrête là.
Alors, tiens, justement, si on a une question à vous poser, on le fait à quel numéro?
Le 06-29-25-35-00. Je répète, 06-29-25-35-00. C'est aussi le numéro pour vous inscrire pour une belle thérapie psychologique et spirituelle qui s'appelle le voyage vers la Mecque que j'organise le 23 février prochain, Inch'Allah ta'ala, en passant par la Turquie, un voyage extraordinaire où on va s'enrichir spirituellement, culturellement, intellectuellement et même fraternellement, puisqu'il y aura une ambiance sur la conviviale, etc. Donc, on passe par Istanbul, par Médine, et à la fin, on termine par la Mecque pour une Omra et même plusieurs Omra, parce qu'on pourra faire plusieurs Omra, avec bien sûr mon accompagnement et mon guide. Et puis voilà, donc inscrivez-vous, appelez-moi au 06 29 25 35 00. Je rappelle aussi que les inscriptions pour le Hajj au mois d'août sont déjà commencées et qu'elles vont se clôturer fin avril. Donc faites attention, avant le début du Ramadan, il faudra s'inscrire pour le Hajj.
Alors donc, on en reparlera jeudi prochain.
Mon numéro 06 29 25 35 00.
Voilà, et demain c'est Maître Serran qui sera avec nous. Merci Imam Abdelali, à jeudi. Maximilien Bachelard, à bientôt.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.